Et même si dans votre parenté, l'une de vos sœurs, par exemple, connaît la terrible souffrance d'un divorce, d'une séparation, comme je souhaite, comme vous souhaitez avec moi, qu'elle conserve la paix dans le fond de son cœur. Elle peut être une très grande sainte, car qu'est-ce qui nous est demandé d'aimer? Si elle continue à aimer son mari, alors même que son mari est parti, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça a de la valeur aux yeux de Dieu? Aux yeux du monde, elle a raté sa vie. Ou presque. En tout cas, elle a raté le rêve de sa jeunesse. Former un foyer formidable où ses enfants puissent s'épanouir. Mais si elle continue à croire qu'elle est aimée de Dieu, oh là là, quelle sainte! Connaissez-vous cette association qui est partie de Bretagne, de Timadeuc, Notre-Dame de l'Alliance, qui rassemble 200 personnes, hommes et femmes, qui souffrent de la séparation ou d'un divorce et qui continuent à rester fidèles au conjoint qui est parti dans l'espérance de retrouvailles futures? Oh, je peux vous le dire, pour leur avoir prêché une retraite, ils ne font absolument pas les malins vis-à-vis des divorcés mariés, mais ils essayent de vivre cette fidélité à l'autre qui est parti. Dans l'espérance de retrouvailles, comme ils sont réalistes, il y a peu de chances que ça se produise sur la terre, mais on pourra s'embrasser de nouveau comme du bon pain. L'espérance. Il y a quelque temps, je recevais la lettre d'une femme qui est en plein divorce. Elle a un mari vraiment qu'elle appelle une ordure, et je pense qu'elle n'a pas tort, car la charité, ce n'est pas de mettre des lunettes roses. Mon mari est une ordure. Il refuse de payer la pension alimentaire la plus élémentaire qu'il devrait donner. Mais elle vient de recevoir la grâce d'espérer que son mari un jour sera bouleversé comme elle l'a été elle-même par le visage de la Sainte Face. Je souhaite qu'il rencontre la Sainte Face, qu'elle l'attire, qu'elle se pose à chaque instant sur ses péchés et qu'il saisisse un jour son ordure. J'aime cette juste mesure du chrétien. Il appelle les choses par leur nom. Il n'essaye pas de se persuader qu'il est dans le meilleur des mondes et que tout va très bien, Madame la Marquise. Mais il vit dans l'espérance que l'autre puisse être un jour bouleversé par la Sainte Face et que de nouveau, il puisse s'embrasser comme du bon pain dans le royaume. C'est cela, la sainteté. C'est ce que l'Église proclame à chaque vendredi saint en relisant le chapitre 53 d'Isaïe. C'est par ses plaies que nous avons été guéris. J'aime rappeler cela aux parents, notamment, qui souffrent terriblement de la souffrance provoquée par l'un de leurs enfants. Rassurez-vous, le Seigneur étonnera vos patiences, mes chers amis. Et au dernier jour, vous verrez vos enfants se lever devant toute la cour céleste. Et ces enfants vous diront à tout le monde, c'est par les plaies que nous avons fait à nos parents, c'est par les blessures que nous avons provoquées chez nos parents que nous avons été sauvés. Car Isaïe 53 ne vaut pas seulement pour les souffrances du Messie, mais pour les souffrances de tous les membres du Messie. Tel est le mystère de la rédemption. Passons à la thérapeutique à froid. Quand la crise émotive est apaisée, il est souhaitable, si c'est possible, de revenir sur l'événement qui a provoqué notre agacement et d'en parler franchement. Vous le savez, justement, lorsque vous faites votre DSA, même s'il ne se réduit pas à cela, oh non, il n'est pas nécessaire pour faire son DSA d'avoir eu une crise quelques jours auparavant, mais il peut comporter éventuellement ce retour paisible, à froid, sur ce qui s'est passé. Car il ne faut jamais le faire, d'ailleurs. Je n'ai pas besoin de donner le conseil. Vous ne faites jamais de DSA quand vous êtes en pleine crise. Bon. Premièrement, donc je rappelle des choses simples là-dessus. Écoutez l'autre s'expliquer. Expliquer les raisons de sa conduite, de son choix, la signification réelle de ses propos, ce qui le fait souffrir dans sa façon de voir ou de parler. Bref, tout ce qui l'agace, ce qui le fait souffrir dans ma façon de voir ou de parler, bref, tout ce qui l'agace chez moi. Et ne pas l'interrompre quand il parle. Cela, c'est surtout vrai pour vous, mesdames. Vous savez que les messieurs ont un grand besoin de s'expliquer longuement, comme je suis en train de le faire maintenant. Vous voyez ? Vous avez déjà compris où il voulait en venir, mais il faut laisser monsieur s'expliquer et dérouler tout son propos. Non. Et si vous faites un week-end mariage-rencontre, ce que je vous encourage à faire, eh bien, on vous expliquera longuement qu'exprimer ses sentiments à l'autre, c'est une marque d'amour. On peut, à l'intérieur d'une lettre d'amour, dire à l'autre, « Tu vois, chérie, je suis d'accord, mes parents, ils m'ont mal élevé, mais tu m'agaces quand tu parles d'une certaine façon de mes parents, car ce sont quand même mes parents. » Ou bien, pour les messieurs qui viennent de prendre leur retraite, « Tu sais, chérie, le samedi après-midi, lorsque tu vas regarder ton match de foot, ben, ça me fait du bien, parce que maintenant que tu es en retraite, tu es toujours là et tu me pompes un peu mon oxygène. Hein ?» Alors, jadis, je me plaignais que tu arrivais toujours en retard. Maintenant, je trouve que tu es un peu trop là. Hein? Chérie, où es-tu? Chérie, qu'est-ce que tu fais? Chérie, on ne ferait pas un tour? Oh là là, ça devient un peu lassant. Hein? On peut se dire des choses comme cela, gentiment. C'est pas de ta faute si tu m'énerves, mais c'est comme ça. Alors, évidemment, il faut essayer de ne pas le dire toutes les 10 minutes. Bon. Et ne pas considérer son discours comme une mise en accusation, mais comme l'expression de sa souffrance. C'est parce qu'il m'aime qu'il souffre autant de ma conduite ou de mes paroles. Et c'est par amour qu'il me confie tout cela, au lieu de s'enfermer dans un mutisme qui serait néfaste à notre relation conjugale, il ose parler. Donc, écoutez l'autre. Deuxièmement, osez m'exprimer à mon tour, si du moins l'autre est capable de m'écouter. Je n'arriverai peut-être pas à le convaincre de ma bonne foi quand je lui dirai que mes propos n'avaient pas l'intention de le blesser, mais il le comprendra peut-être plus tard. Nous n'arriverons sans doute pas non plus à nous mettre d'accord sur la solution à donner à un problème, l'achat d'une voiture, la façon de réagir aux mauvais résultats scolaires d'un enfant, le partage des tâches ménagères. Mais il vaut mieux exposer calmement son point de vue après s'être fâché que de rester enfermé dans son ressentiment. Essayez de lui faire comprendre à mon tour que si je lui parle, c'est parce que je ne me résigne pas à notre mésentente. Ne pas hésiter à lui demander pardon de l'avoir blessé. C'est tellement important, le pardon conjugal. Quand j'anime une session second souffle ou équipe nouvelle, je propose toujours aux animateurs que le samedi soir, il puisse y avoir un long moment pour le sacrement de réconciliation. Et chaque fois, je m'arrange pour qu'il y ait une dizaine de prêtres qui viennent. Et chaque fois, c'est une très grande joie, notamment pour beaucoup de messieurs, de découvrir, après des années et des années, cette merveille du sacrement de réconciliation. Le pardon conjugal est évidemment quelque chose de très important. Vous sentez que je ne fais pas le malin, j'ai un bon sentiment d'infériorité vis-à-vis de vous. Hein? Ce n'est pas un complexe, mais c'est un sentiment. Car je ne me propose absolument pas en modèle d'époux comblant son épouse ou de père de famille très attentif à chacun de ses enfants. Oh non, je suis célibataire, appellation contrôlée. Voyez. Mais ce qui est vrai, c'est que quand on a expérimenté la joie d'être pardonné par Dieu, le pardon pour l'autre est vraiment beaucoup plus facile. On est 50-50, là, quand on revient de la confession. On fait partie du même syndicat des PPP, des pauvres pécheurs pardonnés. Et même les papes d'Avignon, c'était des PPP, PPP. C'était des PPP aussi, eux. Hein? Et Jean-Paul II aussi. Hein? Jean-Paul II, c'est même un PPP, PPP. Un pauvre petit pape pécheur pardonné polonais. Hein? Donc, osez m'exprimer à mon tour. Troisièmement, espérez envers et contre tout que rien n'est impossible à Dieu. Même si la réconciliation ne se produit pas aussi rapidement que je le souhaiterais, même si mon conjoint ou mon frère conserve un gros défaut que je trouve intolérable, je dois espérer qu'un jour viendra où il en sera débarrassé. Je pense à une femme qui appartient à un foyer, des équipes Notre-Dame, quelque part en France, où la femme a accepté pendant 7 ans l'alcoolisme de son mari. L'équipe l'a beaucoup aidée. Elle n'a pas divorcé, elle ne s'est pas séparée. Je ne dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Hein, je... Bon, c'est pas séparé. Moi, si j'étais pape, je la canoniserais. Mais non, je devrais quand même attendre qu'elle soit morte. Bon. C'est merveilleux, ces choses-là. Mais vous sentez bien que on ne peut pas aimer le mari, car le mari qui a bu de trop, ce n'est plus lui, quoi. On ne peut l'aimer que dans l'espérance qu'il va changer. La femme ne peut pas tolérer cette situation intolérable. Elle l'accepte, oui, mais elle ne s'y résigne pas, vous êtes d'accord? Si elle s'y résignait, si elle l'acceptait trop, ce ne serait plus de l'amour. Il y a des situations, je le redis, intolérables.